Une joie d'être à la rue Saunerin encore ce matin. Et je vais essayer de ne pas me mettre à la pression. Il y a encore le temps. Je pense que ce qui va peut-être manquer, c'est votre patience. Mais bon, ça, je n'y peux rien. Je vous invite à vous incliner un instant dans la prière. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui est là. Celui que nous avons chanté au début de notre culte, celui qui se manifeste dans nos vies, celui qui a suscité ces œuvres dont on vient de nous parler aussi. Merci Seigneur, parce que tu es vivant, agissant. Et ce matin, nous voulons encore nous mettre devant ta parole et te demander de parler à nos cœurs. Seigneur, tu connais nos besoins, tu nous connais mieux que quiconque. Et nous te demandons vraiment qu'aujourd'hui, ta parole touche chacun de nos cœurs et que Jésus soit glorifié. Amen. Le téléphone sonne, je décroche, il y a une dame qui se présente, que je ne connais pas, et elle commence à me poser des questions. Vous habitez bien à Blanzard, vous êtes bien propriétaire, etc. Et je me rends compte qu'il y a encore quelqu'un qui veut me vendre des panneaux solaires à mettre sur le toit de ma maison. Vous avez peut-être connu cette expérience. Il m'est arrivé aussi de décrocher et d'avoir au bout du fil l'INSEE, donc l'Institut National des Statistiques. Et ils ont aussi beaucoup de questions, hein, parce qu'ils ont besoin d'informations pour faire des statistiques. Question. Vous effectuez un achat sur Internet et dans les 24 heures, vous avez un maître pour vous demander de répondre à quelques questions sur votre expérience d'achat. Que de questions. Et parfois, j'avoue, j'en ai plus qu'assez des questions. Et vous aussi, sans doute. Mais il ne faudrait pas que, pour autant, nous devenions sourds à toutes les questions. C'est le danger. Mais j'aimerais proposer pour notre méditation ce matin trois incidents tirés des premiers livres de la parole de Dieu et reliés par un fil conducteur qu'on pourrait appeler le sondage de Dieu ou le sondage divin, car le Seigneur pose des questions. Et quand on commence à essayer d'en faire une liste, elle s'allonge très vite. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas essayer de couvrir ce matin toutes les questions de Dieu. Mais parmi les nombreuses questions que Dieu pose aux humains, j'aimerais en regarder trois ce matin rapidement, en commençant par la première question que Dieu a posée au premier homme. Notre première lecture donc sera dans Genèse 3, vous l'avez deviné. Nos premiers parents viennent de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous allons prendre la lecture au verset 8. Donc ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils se sont fait des pagnes avec des feuilles de figuier. Et au verset 8, donc de Genèse 3, nous lisons ceci. « Alors, ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. » L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'étais entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. » Il reprit « Qui t'a dit que tu étais nu ? » Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit, c'est le serpent qui m'a trompé et j'ai mangé. J'arrêterai là la lecture. Où es-tu ? Si un ami me téléphone et que je lui demande « Mais où es-tu ?», il comprend que je veux m'informer du lieu où il se trouve. Par contre, si j'ai laissé un de mes petits-enfants Seul un instant, et qu'en rentrant dans la pièce, je trouve de la vaisselle brisée sur le carrelage, je dirais peut-être aussi, où es-tu ? Pas parce que j'ai peur qu'un enfant soit sorti de la maison, mais parce qu'il se cache, et pour cause, et pour cause. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut prendre la première question de Dieu. Parce que le Seigneur sait très bien où se trouve Adam. Il sait très bien derrière quel arbre il est planqué. Donc ce n'est pas le sens de sa question, quelle est ta localisation, comme on dit aujourd'hui. Mais il l'appelle parce que pour la première fois, l'homme ne vient pas spontanément vers son Dieu. Où es-tu ? Ça, c'est une question que le Seigneur me pose régulièrement. C'est une question qu'il peut vouloir poser à chacun de nous ce matin. Où es-tu ? J'ai la forte impression que les humains manquent ici un rendez-vous. Ils manquent pour la première fois, c'est le premier rendez-vous manqué de l'histoire. Et jusque-là, c'était sans doute un rendez-vous attendu dans l'innocence du jardin. Mais maintenant, il se dérobe, il se cache. Alors, je ne vais pas m'étendre ce matin sur les questions des bilans qu'on peut faire en fin d'année et des bonnes résolutions pour l'année nouvelle, mais je sais d'expérience que le début d'une nouvelle année, c'est un moment propice pour moi pour faire le point au sujet de mes rendez-vous avec Dieu. Donc, je vous le recommande aussi de faire ce point. De faire le point dans nos rendez-vous avec Dieu. Je pense à tous nos rendez-vous, mais d'abord, c'est tête à tête que le Seigneur désire. Et puis, il y a d'autres rendez-vous qui nous fixent en compagnie de nos frères et sœurs dans différentes circonstances. Où es-tu par rapport à ces rendez-vous ? Certes, nous l'avons chanté, nous l'avons dit et redit ce matin, le Seigneur est toujours là. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de lieu où il n'est pas là pour nous, selon ses promesses. Mais on découvre dans la Bible un Dieu qui affectionne les rendez-vous, qui aime ces moments où il a toute notre attention, où nos cœurs se tournent, je dirais même se tendent vers lui. Et Jésus lui-même, dans son humanité, avait ses rendez-vous avec le Père. On le découvre dans les évangiles, Jésus qui s'isole pour un rendez-vous avec son Père. Et c'est Jésus qui recommande à ses disciples aussi de s'enfermer dans leur chambre, de fermer la porte, pour parler à celui qui voit dans le secret. Alors, je ne suis pas là ce matin pour vous dire comment vous devez vous organiser pour vos rendez-vous. J'ai assez de mal à m'organiser moi-même. Mais permettez-moi de vous inciter à prendre le temps de faire le point, de penser à ces rendez-vous et de chercher peut-être honnêtement, sincèrement devant Dieu, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, par rapport à quel rendez-vous le Père peut avoir envie de vous dire où es-tu ? Où es-tu ici dans l'histoire des premiers humains ? Ça veut dire sans doute aussi pourquoi te caches-tu ? Pourquoi te caches-tu ? Et c'est aussi dans ce sens que le Seigneur me pose et nous pose parfois cette question. Où es-tu ? C'est la question du père à son enfant qui peut-être se refroidit dans son engagement, dans sa foi, dans son amour pour le Seigneur. C'est la question que le Seigneur me pose quand je suis l'enfant fautif qui se cache. Et c'est un appel de Dieu, un appel à revenir. Quand le Seigneur me dit, je sais pourquoi il me dit « Où es-tu ? » parce que je sais que je me suis éloigné, je sais que j'ai fauté, que j'ai chuté. Quand il dit « Où es-tu ?», ça veut dire « Reviens ». Ça veut dire « Viens quand même !» Viens, sors de ta cachette, réglons le problème et repartons dans la lumière. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas qu'une question dans cette histoire. Où es-tu ? Est suivi par des questions subsidiaires, comme on dit. Or, es-tu mangé ? Est-ce que tu as désobéi ? Et dans ce cas-là, c'était au seul commandement que je t'ai donné. Et puis à la fin, Dieu dit aussi, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Quand je lis le récit de la Genèse, je n'ai pas l'impression que Dieu a attendu des mois ou des semaines, même pas des jours ou des heures, avant d'appeler, avant de venir. Dieu ne veut pas nous laisser mariner dans notre malheur, dans nos fautes, dans notre culpabilité. Je crois qu'à peine Adam et Ève s'étaient-ils sentis envahis de cette culpabilité, à peine avaient-ils fini de coudre les feuilles de figuier, que le Seigneur était là. Où es-tu ? C'est une question posée par l'amour. C'est l'amour qui demande. Où es-tu ? Chaque fois que nous trébuchons, l'Esprit de Dieu est là pour nous poser la question. Alors je sais bien, nous savons faire la sourde oreille. Mais que le Seigneur nous aide à entendre sa voix et à ne pas repousser le moment de revenir. C'est tout de suite, c'est dès que le Seigneur appelle qu'il faut revenir. Le réflexe naturel de l'être humain est là, dans le texte qu'on a lu. C'est de se cacher. Le réflexe nouveau que l'Esprit de Dieu veut nous inculquer, c'est au contraire, justement, de confesser notre péché, notre faute, sans attendre. Quand Dieu dit « Est-ce que tu as fait cela ?» Tout ce qu'il veut entendre, c'est « Oui, Seigneur, oui, je l'ai fait. » Ce qu'il ne veut pas entendre, c'est la faute de ma femme, de mon mari, de ma belle-mère, de mon patron, etc. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera, il nous purifiera, dit Jean dans sa première épître. Parce que nous avons un avocat auprès du Père qui plaide sa vie donnée pour nous. Et puis, pourquoi as-tu fait cela ? Le Seigneur nous appelle à réfléchir sur nos défaites, sur nos chutes. Il y a beaucoup à apprendre de cette réflexion. Des questions à nous poser, à nous-mêmes. Est-ce que j'ai joué avec le feu ? Est-ce que j'ai joué avec les limites ? J'ai louvoyé jusqu'au jour où j'ai mis le pied de l'autre côté de la ligne jaune. Est-ce que j'avais déjà commencé à négliger ma relation avec Dieu ? Est-ce que j'étais trop loin du bouclier ? Alors c'est vrai que le bouclier, on ne l'utilise pas beaucoup de nos jours, donc on pourrait dire le gilet pare-balles. Mais un bouclier comme un gilet pare-balles, ça ne sert à rien si c'est là-bas, à l'autre bout de la pièce, ou si c'est même tenu à bout de bras. Il faut être tout contre le bouclier. Ou il faut avoir le gilet sur soi pour être protégé. Est-ce que j'ai négligé ma relation avec Dieu ? Est-ce que je me suis mis en danger ? Et c'est souvent le cas. Et le Seigneur nous appelle à réfléchir à nos chutes. Donc, première question, où es-tu ? Un appel à réfléchir. Un appel à nous repentir. Un appel à revenir, à venir quand même. Et aussi, comme je l'ai dit, sans doute un appel à respecter jour après jour nos rendez-vous. J'aimerais regarder Une deuxième question. On va regarder 1 Roi 19. C'est un incident dans la vie d'Élie. Et je lirai le début de ce chapitre. 1 Roi 19. Élie vient de vivre une grande victoire sur le mont Carmel, où il a eu le dessus sur les prophètes de Baal, et tout allait bien jusqu'à ce que, voilà, ce qu'on va lire dans le chapitre 19. Achab, donc, le roi du moment, raconta à Jézabel, sa femme, donc la reine, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux fassent ceci et qu'ils y ajoutent cela, si demain à cette heure-ci je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabée, qui appartient à Juda, et il laissa là son serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « Cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Soudain, un messager le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Le messager du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, la parole du Seigneur lui parvint, qui lui disait « « Que fais-tu ici, Élie ? Que fais-tu ici ?» Donc Élie vient de combattre en première ligne contre des prophètes idolâtres qui égaraient son peuple. Il vient de remporter une victoire, comme je l'ai dit, mais sous les menaces de la reine Jézabel, il quitte son poste, il s'éloigne du front et, arrivé à Horeb, qui est le mont Sinaï, Élie, qui cherche probablement une nouvelle révélation du Seigneur, il est déboussolé. Il a besoin de se reposer devant le Seigneur. Il est accueilli par le sondage de Dieu. Le Dieu des questions est là. Que fais-tu ici, Élie ? On pourrait dire, comme toujours, avec les questions de Dieu, la question va servir de révélateur pour dévoiler l'état réel d'un cœur. Ici, c'est celui d'Élie. Verset 10 nous dit que son cœur était rempli d'amertume, de pitié de soi et de frustration. J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul. Et il cherche à me prendre la vie. Comme il dit, quand nous sommes fatigués, quand nous avons envie de baisser les bras, de tout laisser tomber, nous sommes très doués pour nous justifier. Alors, peut-être qu'on ne parlerait pas tout à fait comme Élie, mais on dirait au Seigneur, nous sommes si peu nombreux face aux ennemis de la vérité. L'immoralité inonde le monde et la tiédeur d'esprit envahit même l'église du Seigneur. Je suis resté moi seul, tout seul. Quand Dieu dit, que fais-tu ici, Élie ? Ça veut dire comment ça se fait, Élie, que tu sois dans cet état d'esprit-là? Le « ici », encore une fois, ce n'est pas tellement le lieu géographique, c'est l'état intérieur. Que fais-tu dans cet état d'esprit? La pitié de soi t'aveugle complètement. Tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont. Tu as les yeux fixés sur les difficultés. Porte ton regard plus haut. Souviens-toi de moi, le Dieu des armées. Et puis peut-être derrière cela aussi, il y a le fait que Dieu reconnaît qu'Élie est fatigué. On le voit dans les messagers qui sont venus lui apporter à boire et à manger. Ils l'ont même laissé dormir. Point important à retenir aussi, le Seigneur veut parfois nous laisser dormir quand on est fatigué. Mais le problème, c'était effectivement qu'Élie, il était enfermé par les difficultés. Il ne voyait plus le Seigneur. Et le Seigneur, donc, comprend qu'Élie a peut-être présumé un peu de ses forces, qu'il a trop poussé. Il lui dit, dans les versets 15 à 16, « Il faut que tu apprennes à partager ton fardeau, Élie. Il faut que tu apprennes à travailler en équipe. » Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer ce matin avec les anciens de la rue Sonora quand j'ai préparé ce message. Mais dans ce texte, le Seigneur dit à Élie, il y a Élisée, il faut reconnaître que tu as besoin de faire équipe avec Élisée, donc dans le rôle d'Élisée, Paulin, mais d'autres aussi sans doute par la suite. Et le Seigneur lui dit, seul toi. Alors qu'est-ce qu'on fait des 6999 autres fidèles en Israël? Tu n'es pas seul. Que fais-tu ici? C'est la question que le Seigneur me pose quand le doute m'envahit, quand je me sens déboussolé, et peut-être quand je me sens tenté de tout laisser tomber et dire non, mais c'est trop, c'est trop. Là, le Seigneur nous dit, stop. Prends le temps de te poser devant moi et réfléchis à ton état. Il est temps de lever les yeux, de te rappeler qui je suis, de retrouver ta direction. Peut-être de te rappeler aussi, et c'est le cas pour Élie ici, te rappeler que le Seigneur agit parfois avec éclat. C'est vrai. Comme sur le mont Carmel, le feu est descendu du ciel quand même pour consumer son offrande. Mais parfois aussi, le Seigneur agit de façon invisible et mystérieuse. Comme au verset 12, où il est question d'un son subtil, d'un silence. Mais que le Seigneur choisisse tel ou tel mode d'action, lui n'est jamais dépassé par les événements. Jamais. La victoire, et ça c'est quelque chose qu'on apprend difficilement, mais qui est vrai, la victoire est moins dans les coups d'éclat que dans la constance et la fermeté. C'est dans le livre de l'Apocalypse qu'on découvre le vainqueur. Et le vainqueur dans l'Apocalypse, c'est celui qui persévère. Celui qui persévère. Hébreux 12, verset 2, « Courons avec persévérance. Les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. C'est une promesse. Que fais-tu ici? C'est aussi un appel à nous rendre compte que nous avons besoin des autres. Nous avons besoin des autres. Et que Dieu prépare la relève. Alors, on en a eu une démonstration ici ce matin. Merci Seigneur. Dieu prépare une relève. Donc pour Élie, ça sera l'occasion de faire équipe avec Élisée. Et puis, il va aussi être appelé à préparer l'avenir politique de son peuple, hein, la suite pour le règne en Israël. Le Seigneur lui dit, il faut que tu te rendes compte que tu n'es pas seul. Et il faut que tu t'appuies aussi sur d'autres, que tu partages. Nous sommes parfois tellement personnels, même par rapport à notre service pour Dieu. Hein, c'est mon service. c'est ma classe d'école de dimanche, hein, c'est mon groupe de ceci ou de cela. Non, pas comme ça que le Seigneur voit les choses. Si nous partageons nos fardeaux, si nous partageons nos responsabilités, nous éviterons bien des moments de découragement et de fatigue excessive, de dépression. Donc, entendons aussi cette deuxième question que le Seigneur peut vouloir aussi nous poser. Que fais-tu ici dans cet état d'esprit? Lève les yeux. Fixe les yeux sur Jésus. Puis je finirai avec, en revenant un petit peu en arrière, avec une question que Dieu pose à Moïse. C'est dans Exode 4. C'est l'histoire du buisson ardent. C'est un moment où Dieu a dit à Moïse, « Fais sortir d'Égypte mon peuple Israël. » Et on prend la lecture donc au début du chapitre 4, Exode 4, au premier verset. La réaction de Moïse à l'appel de Dieu. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Ils diront, « Ah, le Seigneur ne t'est pas apparu. » Le Seigneur lui dit, « Qui a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » Il dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton devint un serpent. Moïse se mit à fuir pour lui échapper. Le Seigneur dit à Moïse, « Tends ta main et saisis-le par la queue. » Il tendit la main et le saisit. Le serpent redevint un bâton dans sa main. C'est afin qu'ils croient que le Seigneur, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, t'est apparu. Qu'y a-t-il dans ta main? Le Seigneur se révèle à Moïse dans ce buisson qui brûle sans se consumer et il l'appelle à faire sortir son peuple d'Égypte. Mais Moïse n'est pas d'accord. Moïse trouve toutes sortes de prétextes pour s'esquiver. Dans sa grande humilité, il dit, « Je ne suis pas capable, Seigneur. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne sais pas parler, etc. » Et puis, les Israélites, Seigneur, tu les connais. Ils sont incrédules. Ils ne me suivront pas. Ils ne m'écouteront pas. Je n'arriverai pas à les convaincre que je viens vraiment de ta part. C'est pas possible. Et là, Moïse est en train de dire à Dieu, « Je ne suis pas équipé pour ce que tu me demandes de faire. » Alors, je peux imaginer bien des situations dans la vie où on puisse légitimement plaider dans ce sens auprès de son patron, s'il vous demande quelque chose qui n'est vraiment pas dans vos compétences. Peut-être même... Quelquefois, il faut le dire à sa femme ou à son mari, « Ça, chérie, je ne sais pas faire. Je ne pourrai pas. » Très, très occasionnellement, il y a peut-être des situations, il faut même dire aux anciens de son église, hein, « Ça, je ne pourrai pas le faire. » Mais bon, pas à la rue sonnera, sans doute. Mais à Dieu. À Dieu, on ne peut pas lui dire, je ne suis pas équipé pour ce que tu me demandes de faire. Parce que quand il appelle, il équipe. Et il prépare. Et Moïse ne s'était pas rendu compte que ça faisait 40 ans que le Seigneur le préparait pour ce moment. 40 ans comme berger dans le désert pour être prêt ce jour-là à dire « Oui, Seigneur, j'y vais ». C'est là que le Seigneur pose une question tout à fait étrange, surprenante. On croirait du coq à l'âne. Hein, qu'est-ce que ça vient faire là? Qui a-t-il dans ta main? Et Moïse a dû trouver la question saugrenue, il me semble. Hein. Je suis même persuadé qu'avant de répondre, il a dû regarder. Mais c'est quoi dans ma main? Mais non, ben... Il fallait bien qu'il regarde. Dans ma main, ben rien. Enfin... Il y a le bâton qui est toujours dans ma main. Je le comprends parce que tous les matins, je mets mes lunettes et puis j'oublie que je les ai mises. Si vous me demandez, vous avez quoi sur la figure, ben, je dirais rien. Moïse, tous les matins, il prenait son bâton et puis il s'en allait au travail. Qu'y a-t-il dans ta main? Alors ce bâton lui était certainement bien utile pour conduire le troupeau, pour amener une brebis qui s'égarait, pour défendre ses brebis contre les bêtes sauvages, pour s'appuyer quand il était fatigué. Mais alors quel rapport avec « Fais sortir d'Égypte mon peuple d'Israël » Qu'y a-t-il dans ta main? Ce vieux bâton, pour moi, donc son équipement finalement, c'est à peu près tout ce qu'il avait comme équipement, symbolise aussi son expérience de berger, ses dons, même s'il ne savait pas qu'il les avait. Mais ce vieux bâton, Moïse croyait le connaître par cœur. Il croyait en avoir fait le tour. Il n'aurait jamais imaginé que ce bâton puisse le surprendre. Jamais. Mais il allait devoir déchanter. Car le Seigneur a pris ce bâton ordinaire. Il lui a donné un aspect nouveau. L'aspect d'un serpent. Alors là, il a été surpris. Et Moïse est parti en courant. Il a eu peur. Il a eu peur de quoi? Il a eu peur de son bâton, de son propre bâton. Qu'y a-t-il dans ta main? Il nous arrive aussi de sous-estimer les possibilités de choses apparemment banales, ordinaires. Nous avons tort. Et nous avons tort de sous-estimer aussi ce que Dieu peut faire avec nos petites possibilités, nos petites capacités. L'humilité, c'est bien. Mais le Seigneur ne nous permettra pas de nous cacher derrière notre humilité pour dire « Je ne suis pas équipé pour ce que tu me demandes de faire. » Car nos petites possibilités et nos capacités, si Dieu les prend en main, pourront nous étonner. Si j'en crois ce texte, pourront peut-être même nous faire peur. Nous avons tendance à croire que nous ne sommes pas armés pour faire des choses qui comptent aux yeux du Seigneur. Moïse était victime de cette même illusion. Mais si j'ai bien compris ce que la parole de Dieu nous enseigne, ce ne sont pas nos petits moyens et ce ne sont pas nos petits dons qui limitent l'action de Dieu. Ce serait plutôt notre petite foi. Matthieu 13, 58, et Jésus ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Seigneur, je crois, fais grandir cette foi. Un simple bâton de berger, un don qui nous semble banal, une parole qui nous semble peut-être malhabile entre les mains de Dieu, ces choses peuvent devenir redoutables. Alors il ne s'agit pas, évidemment, comme Paul nous le dit dans Romains 12, verset 3, il ne s'agit pas d'entretenir des prétentions excessives. Ne prenons pas la grosse tête. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. Mais il nous demande de mettre nos possibilités personnelles, et nous en avons, de les mettre à sa disposition, selon la mesure de la foi que Dieu nous a donnée. En partage. Il nous demande d'aller à la limite de la foi qu'il nous a donnée. Et je pense que si vous êtes comme moi, il y a encore de la place pour grandir dans ce domaine, pour aller plus loin. Ne nous décourageons pas d'avance quand nous sentons l'appel de Dieu. Ne disons pas, ils ne me croiront pas. On ne reconnaîtra pas que ça vient de toi. Attendons-nous plutôt à voir des résultats surprenants quand Dieu agit en réponse à notre foi. Alors, qu'y a-t-il dans ta main? Soyons donc prêts à répondre au sondage divin. Comme j'ai dit, il y en a d'autres, des questions que vous allez rencontrer dans votre lecture de la parole. Que le Seigneur nous aide à être sincères, à être honnêtes avec lui quand il pose ces questions. Où es-tu? Où es-tu ce matin? Que fais-tu dans l'état d'esprit où tu te trouves? Et qui a-t-il dans ta main? On pourrait peut-être dire que les deux premières questions sont posées pour nous aider à mettre de l'ordre dans nos têtes, dans nos cœurs, pour que nous puissions entendre la troisième question, qui nous renvoie à notre service, à la mission que Dieu confie à chacun de ses enfants dans la vie. Les questions de Dieu sont plus importantes que toutes les autres. À l'époque du psalmiste, je pense qu'on n'avait pas encore inventé ce qu'on appelle aujourd'hui les sondages. Et pourtant, il écrit « Tu me sondes et tu me connais ». Et c'est dans ce sens-là que Dieu nous pose des questions. Il nous sonde parce qu'il nous connaît. Alors, avec le psalmiste, que nous puissions aussi lui dire « Sonde-moi, ô Dieu ». Prions. Seigneur, nous voulons tout simplement ce matin te remercier parce que tu t'occupes de tous tes enfants. Tu as des questions à nous poser parce que tu nous aimes. Tu as des questions à nous poser parce que tu as des projets pour nous, parce que tu as une volonté qui est bonne, qui est parfaite pour chacun. Tu as des questions à nous poser pour ne pas nous laisser tourner en rond, pour ne pas nous laisser mariner aussi dans nos péchés, dans nos fautes, pour ne pas nous laisser seuls avec nous-mêmes et avec notre découragement et notre fatigue. Merci pour tes questions, Seigneur, qui nous aident à revenir, qui nous aident à lever les yeux, qui nous aident aussi à nous engager selon ta pensée pour nous, pour que dans l'Église, tous les membres fonctionnent, et que le corps vive pour ta gloire. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen.